au 99.1 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Menu très intéressant aujourd'hui. On parle avec Patrice Léger-Bourgoin, le directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Nathalie Marcotte sera avec nous, la coordonnatrice de la table régionale de l'Association des personnes handicapées de La Naudière. Isabelle Perrault, la mairesse de Saint-Alphonse et préfète de la MRC Matawini, nous parlera du cadre forestier. On parlera également de Marc-André Carrier. Et ça, c'est une petite surprise que je vous donne. Et il y aura bien sûr le commentaire de Pierre Paquette. Mesdames, messieurs, bonne émission. Eh bien, les producteurs maraîchers de La Naudière, comme d'ailleurs, peuvent espérer respirer d'aise. Un code de conduite empêche maintenant les détaillants d'imposer des prix aux producteurs. Ce qui se passait, mesdames, messieurs, je vais vous expliquer ça rapidement, c'est que les grands marchands comme Walmart fixaient des prix, s'entendaient avec certains producteurs de nos régions et d'ailleurs au Québec. Ils fixaient un prix, par exemple, un prix pour les brocolis. Et une fois que la récolte était commencée, que les maraîchers étaient dans les champs pour ramasser leurs légumes, eh bien là, on questionnait le prix, on disait à ces mêmes producteurs-là, ben on a trouvé un meilleur prix. Alors, ces gens-là risquaient de perdre leur récolte, alors ils acceptaient, évidemment, de baisser leur prix au profit de ces gens-là. J'oserais pas, en tout cas, la réserve ne me permet pas de juger ces gens-là, mais je trouve ça un peu croche entre les lignes. Alors là, il y a un nouveau code de conduite, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va obliger, là, il va falloir maintenant là, suivre un code presque de déontologie, je dirais. Il y a François Morin qui s'est entretenu avec le directeur général du côté de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, Patrice Léger-Bourgoin.
La Naudière PM, alimentation.
C'est une excellente nouvelle pour les producteurs maraîchers. Nous avons là l'impression que le code de conduite va permettre d'assainir et d'améliorer les relations que les producteurs maraîchers ont avec les grandes chaînes de détaillants. Puis, si on se fie à l'expérience de la Grande-Bretagne qui a initié ce type de code de conduite il y a environ 10 ans, nous avons bon espoir que nous saurons trouver là, une façon de communiquer, de s'entendre avec ces grandes chaînes pour avoir de meilleures discussions d'affaires finalement.
Parce qu'il faut le rappeler, les grandes chaînes avaient le dernier mot sur les prix, forçaient, si on veut, une compétition déloyale.
Oui, absolument. Dans les produits maraîchers, la plupart du temps, là, on travaille avec des produits qui sont hautement périssables. Alors, le producteur maraîcher se trouve vulnérable parce que, à partir du moment où il procède à la récolte d'un produit hautement périssable, il a seulement quelques jours là, pour se départir de son produit. Alors, l'acheteur, le plus souvent la grande chaîne, a le dernier mot pour suggérer un prix et le producteur se trouve preneur de ce prix-là, puisque à défaut de pouvoir le vendre, il se retrouve avec des pertes de produits qui deviennent carrément du gaspillage alimentaire.
Ce qui veut dire que pour les producteurs maraîchers, la Naudoie notamment, on va être en mesure de faire de meilleures affaires et éviter de devoir composer avec des pertes importantes.
C'est l'espoir que nous avons là. Si vous êtes un producteur maraîcher de Saint-Lin, de Saint-Roch, de la Valtrie, de la Norette, Saint-Alexis, vous savez, la Naudière est un endroit, c'est la deuxième région au Québec avec le plus de maraîchers, mais ce que vous voulez, c'est que votre entreprise soit en santé économique, parce que quand une ferme maraîchère est en bonne santé économique, elle fait prospérer la municipalité en achetant là, divers produits, en faisant vivre les gens locaux. L'avantage d'avoir un code de conduite efficace, au-delà de permettre d'améliorer les relations d'affaires, c'est d'aider des entreprises, des PME locales à prospérer. Et lorsque des entreprises prospèrent, c'est bon pour l'économie de la région et c'est bon également pour toute la population. Ce qu'on veut, c'est que l'argent reste dans ces municipalités-là et non pas qu'elle s'en aille vers Toronto ou encore dans les sièges sociaux américains des grandes chaînes.
Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler? Est-ce qu'on s'est assuré justement que les détaillants vont respecter le code?
C'est un code de conduite à adhésion volontaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que il y a un bureau qui va analyser là les enjeux, les plaintes, les différents, et le bureau d'enquête, en quelque sorte, va livrer son opinion, va livrer son avis. Et évidemment, la grande chaîne aura le loisir d'accepter de se conformer à cet avis-là ou non. La même chose pour le producteur. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des paramètres qui sont axés sur la bonne foi des intervenants. Alors, si un des deux intervenants a une mauvaise foi, c'est clair que les beaux principes derrière le code de conduite ne pourront pas s'appliquer, malheureusement.
Donc, c'est à l'usage qu'on va analyser la pratique et qu'on va probablement devoir s'ajuster.
Tout à fait. C'est vraiment, on en est au balbutiement. Là, le code de conduite est en application depuis le début de la semaine. Alors, on se donne 24 mois pour vraiment là tenter de déterminer si cette façon-là de faire, qui est novatrice, va fonctionner. Gardons en tête là que nous sommes seulement le troisième pays au monde à appliquer ce type de méthode de résolution des différends. Vous avez eu, il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, le Royaume-Uni, où le code de conduite à adhésion volontaire a très bien fonctionné jusqu'à présent. La situation n'est pas parfaite. Il n'y a jamais de situation parfaite. Mais on a également l'exemple contraire de l'Australie, où il y avait jusqu'au 1er avril de cette année un code de conduite à adhésion volontaire, et la méthode de fonctionnement n'a malheureusement pas réussi à opérer, et le gouvernement australien a été dans l'obligation de rendre le code de conduite obligatoire, parce que force était de constater que la façon de procéder là ne fonctionnait tout simplement pas.
En terminant, il ne faut quand même pas exclure la possibilité que les maraîchers ne soient pas en mesure d'écouler toute leur production auprès des détaillants, mais il y a d'autres canaux pour le faire.
Oui, et puis souvent, je vous dirais, lorsque les détaillants ne peuvent pas prendre tous les volumes, ben gardons en tête que le Québec offre aussi d'autres canaux là de vente des produits. Là, vous avez les marchés publics, vous avez les kiosques sur le bord des routes, vous avez les restaurants, les hôpitaux, les écoles. Alors, les producteurs maraîchers de la Naudière, comme ceux d'ailleurs au Québec, ne sont pas non plus exclusif à un seul type de client. On a une bonne demi-douzaine de façons de pouvoir écouler la marchandise au Québec.
Eh bien, c'est tant mieux, cette histoire-là. Enfin, les producteurs maraîchers, ça va éviter de se faire enfirouaper par les gros clients, les gros acheteurs, les Walmart de ce monde. Alors, moi, faut pas être contre la vertu, hein? On va parler au retour de la pause des compressions dans les services de proche aidance, et ça touche directement les personnes handicapées de la Naudière. Restez là, mesdames, messieurs.
Avec C'est ma vie, Guylaine Tanguay se livre à cœur ouvert à travers les plus grands classiques country et ses propres chansons.
Ça vient de loin, de l'écho des montagnes, son qui nous fait penser à la campagne.
Un spectacle intime, rempli d'émotion et d'authenticité, le 6 juin au Centre culturel Desjardins. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com. Une présentation de la source Bain Nordique.
Au Québec, nous savons garder la tête froide. Surtout quand Harvey's propose des laits frappés à seulement 3 $. Crémeux, onctueux et préparés à la main avec des produits laitiers 100% canadiens. Difficile de résister. Laits frappés boissons glacées, seulement 3 $ pendant tout l'été, chez Harvey's, votre bar à burger et plus.
Entreprises et organismes à l'écoute, ne manquez pas votre chance de briller au Salon 50 plus de la FADOC, région Lanaudière, présenté pour une deuxième année consécutive par les Habitations bord de l'eau. Les 26 et 27 septembre, venez rencontrer des milliers de visiteurs aux Galeries Joliette. C'est l'occasion idéale de faire connaître vos produits et services à une clientèle active et engagée. Réservez votre kiosque dès maintenant. Contactez Annie à la FADOC ou visitez le fadoc.ca pour tous les détails. Soyez exposant au Salon 50+ et faites rayonner votre organisation.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Thomas, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Jacques, Saint-Sulpice,
CFNJ.
99.1 88.9.
Ici, les chansons américaines, c'est comme les marques américaines. On n'en consomme pas.
Lanaudière PM, services sociaux.
Eh bien, la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière y va d'une sortie contre le gouvernement Legault. Il y a les récentes annonces de compression dans les services de proche aidance, et ça, ça a des impacts directs sur les personnes qui sont vulnérables. Et on va écouter, si vous voulez bien, un entretien de François Morin avec la coordonnatrice de la table, Nathalie Marcotte.
Absolument. Moi, en fait, mon domaine étant celui des personnes handicapées et des personnes proches aidantes de personnes handicapées, je suis à même, en fait, de constater les divers reculs dans, je dirais, l'ensemble des dossiers relatifs aux personnes handicapées, ce qui a une incidence directe sur, je dirais même l'affaissement de leurs conditions de vie au fil des années, particulièrement ces dernières années.
Tout récemment, le gouvernement du Québec annonçait des compressions dans l'aide à la proche aidance. Alors, j'imagine que pour les gens que vous représentez, ça devient encore de plus en plus pénible.
Ça fait extrêmement mal parce qu'en fait, c'est très mince filet de sécurité dont disposent les personnes proches aidantes. Et ça, il y a eu des coupures importantes ces derniers temps. Et même au niveau des travaux qui se font au ministère, au niveau du soutien à domicile en général, on a des craintes qui s'appuie en fait sur des faits importants au niveau de la remise en cause là, de différents principes, dont le principe de compensation financière des limitations fonctionnelles, ce qui signifierait en fait que les personnes qui ont les moyens de payer, qui sont handicapées, vont devoir payer pour l'ensemble de leurs services, ce qui est préjudiciable, en fait, si on se place dans une perspective où chaque individu dispose de services gratuits, de services publics, et que toute personne n'a pas à payer un surplus, en fait, parce qu'elle est handicapée ou qu'elle a des limitations.
Et c'est pourtant inscrit dans la loi là, depuis plusieurs années là, que cette compensation-là doit être versée.
Absolument. En fait, c'est le Conseil des ministres qui a voté ce décret-là en 88. Et à travers les années, ça n'a jamais été remis en question. Et donc, là, dans le cadre des travaux de la politique de soutien à domicile, ben malheureusement, c'est ce qui est nommé. Et ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est l'inertie puis le silence, en fait, des politiciens. On les sollicite pour avoir des confirmations, des suivis que ça ne sera pas mis en péril. Et c'est le silence radio.
Donc, je comprends que vous avez alerté la députation régionale et on vous répond pas.
Absolument. On a sollicité le bureau de M. François Legault. Et après quelques, ça fait déjà plusieurs semaines, et malgré des relances, on nous dit qu'on va nous donner une date de rencontre, mais ce suivi-là n'est jamais venu.
Au-delà d'une rencontre, ça prend des engagements.
Absolument, puis c'est la raison pour laquelle on a sollicité une rencontre avec M. Legault, parce que c'est pour nous celui qui a le plus de pouvoir sur la suite, la poursuite en fait des travaux et le maintien de ce principe-là de compensation financière, qu'en fait qu'il ne soit pas remis en question.
C'est un petit peu difficile, évidemment, là, on comprend, il y a plusieurs organismes qui sont pas contents, notamment du dernier budget et des décisions qui en découlent. Est-ce qu'on a quand même espoir de réussir à faire marche arrière, au gouvernement, ou bien il devra en répondre au prochain rendez-vous électoral?
Que dire? La déception, elle est inscrite en majuscule, en néon, Donc, on n'a pas vraiment l'espoir d'investissement à court terme dans les services comme dans le financement de la mission là, des organismes communautaires autonomes là, qui desservent les personnes handicapées, entre autres. Là, bien évidemment, il y en a toute une panoplie là, dans la Naudière comme dans les autres régions du Québec. Donc, au niveau du financement, on a peu d'espoir qu'il y ait des investissements significatifs, en fait, qui vont avoir vraiment un impact. Cependant, bien évidemment, ben comme à chaque période préélectorale, il y a toujours des annonces, comme par miracle. Et donc, on entretient toujours l'espoir que quelque part, au Conseil du Trésor ou ailleurs, il constate l'importance de financer les services.
Écoutez, moi, si vous voulez mon avis, là, je trouve ça incroyable de couper dans les gens qui font de l'approche aidance. Ces gens-là font tellement sauver de l'argent au gouvernement quand ils s'occupent de leurs personnes âgées, de leurs personnes handicapées. Si ces gens-là étaient en institution, ça coûterait de double, triple souvent. Alors, de couper, de compresser dans les services de proche aidance, je pense que c'est se tirer dans le pied, mais que voulez-vous? Ça, c'est ma petite opinion à moi. Peut-être que j'ai raison ou non. Projet de loi 97 maintenant sur la refonte du régime forestier, ça c'est une autre histoire. On va d'ailleurs en reparler en fin d'émission avec Pierre Paquette. C'est actuellement à l'étude ce projet-là à Québec. Ça suscite beaucoup de grogne alors que le gouvernement donne l'impression de se déresponsabiliser complètement. On n'a fait aucune consultation. Je sais pas ce qui se passe avec ce gouvernement-là. Ils travaillent en vase clos. Ils vont pas demander l'avis des gens qui sont sur le terrain. C'est assez particulier. En tout cas, c'est ce que croit la mairesse de Saint-Alphonse Rodriguez et préfète de la MRC Matawini, Isabelle Perrault, à qui François Morin a parlé.
La Naudière PM, ressources naturelles.
Ben en fait, l'affaire, on dirait bien que ce projet-là, loi-là, fait l'affaire d'à peu près personne, même l'industrie forestière qui va se retrouver avec la mouture là, qui a été déposée, se retrouverait responsable de l'acceptabilité sociale puis de l'harmonisation des usages dans les zones multi-usages. Je ne suis pas certaine que ça fait vraiment leur affaire non plus. Donc, effectivement, toutes les unions municipales, les communautés autochtones, les organismes de protection de l'environnement, personne n'est content. Tout le monde est inquiet. On doit avouer qu'il y a beaucoup de flou aussi là autour de ça. Je vous dirais que le seul consensus, c'est que le statu quo n'était plus possible. Donc, il faut faire le réaménagement de ce régime forestier-là. Il faut le moderniser. Faut avoir plus de prévisibilité, j'en conviens, pour l'industrie forestière, mais aussi pour les usagers. Là. Quand on parle des usagers de la forêt publique, là, c'est énorme. Là. On a des aigles, la chasse, de la randonnée, des érablières, il y a des pourvoiries. Il y a vraiment beaucoup de monde là, qui sont en gestion puis qui gravitent autour de la forêt publique. Donc, effectivement, le premier irritant, c'est l'atteinte à l'autonomie municipale puis le manque de consultation des usagers locaux. Là.
Et justement, ça vient impacter le développement qu'on pourrait envisager sur les terres publiques. On est vraiment contraint là, par le projet de loi.
Oui, c'est le développement récréotouristique. Tu sais, en fait, le projet comporterait trois zones d'activité, c'est-à-dire une activité de conservation, une activité il se passerait rien, ce serait la conservation environnementale, une zone multi-usage où là, c'est un peu comme c'est le cas maintenant à peu près partout sur la forêt privée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs usagers qui se concertent pour voir à la planification forestière. Et il y a la troisième zone, c'est de la foresterie intensive, c'est-à-dire qu'on ferait de la foresterie, les autres usages ne seraient pas considérés et on essaierait d'améliorer la performance et la productivité de la forêt qui ne l'est pas tant que ça là actuellement. Donc, ces trois zones-là, qui les déterminerait, comment ça fonctionnerait? Est-ce que, par exemple, un usage récréotouristique ne pourrait plus se faire en zone de foresterie? Est-ce que, par exemple, une conservation importante d'un milieu d'intérêt écologique en multi-usage ne pourrait pas être protégé. C'est tout ça là, qui reste un peu dans le flou. Puis ça, c'est sans compter l'absence de reconnaissance des droits des Premières Nations. C'est super important. Ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas partie prenante. Puis je dois dire que les municipalités ne les remercient non plus. Donc, personne n'est content là, dans les usagers puis ceux qui s'occupent et qui ont des délégations de gestion de la forêt publique.
Bon, ben justement, on ouvre une petite porte, là. Il n'y a pas si longtemps, on avait parlé d'un protocole d'entente entre la communauté de Manawan et la Syrie Saint-Michel. On était pour développer ensemble là, des façons de faire. Et le projet de loi semble, à première vue, là, mettre ça en péril.
Ben, mettre ça en péril. On est actuellement, le ministère est actuellement en analyse de projets d'air protégé qui ont été déposés à l'automne dernier. Est-ce que ça aussi, c'est en péril? On le sait pas. C'est pas bien défini. On parle aussi d'un aménagiste forestier régional, là, qui travaillerait à la planification de la récolte forestière puis des autres usages. C'est qui? Les relèves de qui? Probablement du ministère des Ressources naturelles, ce qui fait dire aux municipalités, ben, c'est une centralisation des pouvoirs parce qu'actuellement, dans la Naudière, entre autres, c'est la MRC Matawinie qui est délégataire là, pour l'harmonisation. Ça s'appelle une table de gestion intégrée des ressources du territoire. Où est-ce que ça fonctionne vraiment très bien? Où est-ce que tous les usagers de la forêt publique sont présents? Où est-ce qu'il y a une harmonisation des usages qui se fait? Ben, c'est pas parfait, là, on s'entend, mais ça reste qu'il y a un lieu non seulement d'échange d'informations, mais surtout de concertation. Et là, les usagers peuvent être au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient. Là, comment ça va fonctionner? C'est parce que dans le projet, on abolit ces tables-là de concertation. Donc, les ententes actuelles entre les Autochtones, la Syrie, le ministère, les ententes du ministère avec les associations qui ont déposé des projets d'air protégé, tout ça devient fragilisé et à tout le moins sur la glace, là.
En terminant, il est encore temps d'agir, j'imagine, et parce que le projet de loi n'a pas encore été adopté.
Non, tout à fait. C'est présentement les commissions parlementaires là, au sujet de la loi 90, du projet de loi 97. Les unions de l'UMQ et la FUM, là, les unions municipales, nous ont beaucoup consultés. On a eu beaucoup de rencontres pour déposer des mémoires. Donc, ça reflète bien les préoccupations là, du milieu municipal. Et j'ai entendu ce matin la ministre dire qu'il consultait pas pour rien, donc il y aurait une écoute. Maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire comme modification ou amendement à cette loi-là? Je le sais pas.
Tel que mentionné, on va en reparler avec Pierre Paquette et on va également parler de deux dossiers finalement en fin d'émission. On va parler du dossier de la réforme énergétique, la loi 69 et le projet de loi sur les forêts dont on vient de parler, la loi 97. Ça va pas bien pour le gouvernement. On va parler également d'information dans un instant avec un collègue qui a beaucoup travaillé aujourd'hui, notre collègue François Morin.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, ça s'est gâté pas mal un peu partout sur le réseau. C'est rouge du boulevard Saint-Michel jusqu'à de l'autre côté du pont Charles de Gaulle. Ça, c'est pour la 40 Est. Métropolitaine S également. Pont Charles de Gaulle, là, un petit peu dépassé la sortie du pont où vous êtes nombreux. Pont Le Gardeur par Notre-Dame, ça va toujours bien. C'est une bonne solution pour vous. 25 Nord pour le pont de l'Île-Saint-Jean, c'est congestionné. Tenez-vous bien de la 40 jusque de l'autre côté de l'Île-Saint-Jean, en passant, bien sûr, par le pont Payan. Alors, vous êtes pare-choc à pare-choc ou presque. 640, montée du Mai jusqu'à la 40, c'est sur direction Est, bien sûr. Et en terminant, pour vous faire sourire un peu, Saint-Ignace de Loyola, ben, c'est pare-choc à pare-choc là-bas, puis c'est normal, c'est la file d'attente du traversier. Alors, imaginez-vous.
Le mercredi, à partir de 16h, le burger du jour vous est offert à 5$ de rabais à l'échappée Grill et Bar Sportif. Chaque semaine, on vous propose un burger différent parmi nos classiques et nos nouveautés. Vegan ou cœliaque, on arrange ça. Ah ouais donc, 450-394-1658.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
Comment vas-tu, vieille branche?
Ben, ça va très bien, merci, vieux chêne.
Comme moi, tu n'es pas une jeune pousse du printemps.
Non, mais on a l'expérience, on est rendu.
Voilà, et parlant d'expérience, il y a des compressions qui impactent les personnes handicapées.
Oui, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Là. Les récentes annonces de compression dans les services de proche aidance, ça a des impacts directs sur les personnes vulnérables et principalement les personnes handicapées. La table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Nadière questionne les choix du gouvernement qui transgresse lui-même une loi datant de 1988. On écoute là-dessus la coordonnatrice Nathalie Marcotte.
Personne qui ont les moyens de payer, qui sont handicapés, vont devoir payer pour l'ensemble de leurs services, ce qui est préjudiciable, en fait, si on se place dans une perspective où chaque individu dispose de services gratuits, de services publics. En fait, c'est le Conseil des ministres qui a voté ce décret-là en 88. Et à travers les années, ça n'a jamais été remis en question.
Le projet de loi sur la réforme du régime forestier est mal accueilli.
C'est le projet de loi 97 et il est actuellement à l'étude à Québec. Effectivement, il suscite passablement de grogne alors qu'il vient chambouler des façons de faire qui pourtant donnent des résultats positifs, notamment dans la région. On écoute la mairesse de Saint-Alphonse Rodriguez et préfète de la MRC Matawini, Isabelle Perrault.
Dans la Nadière, entre autres, c'est la MRC Matawini qui est délégataire là, pour l'harmonisation. Ça s'appelle une table de gestion intégrée des ressources du territoire. Où est-ce que ça fonctionne vraiment très bien? Où est-ce que tous les usagers de la forêt publique sont présents? Où est-ce qu'il y a une harmonisation des usages qui se fait? C'est parce que dans le projet, on abolit ces tables-là de concertation. Les ententes actuelles entre les Autochtones, la CIRI, le ministère, les ententes du ministère avec les associations qui ont déposé des projets d'aires protégées, tout ça devient fragilisé.
Et là, tu vas faire plaisir à bien des gens. Mine de rien, on a un peu plus d'argent dans nos poches.
En fait, je vais peut-être les surprendre.
Oui, c'est surprenant.
Le revenu disponible par habitant augmente dans la Nadière, mais plus faiblement en raison notamment de l'inflation. Alors, le revenu disponible, c'est la somme de tous les revenus moins les transferts, incluant les impôts et les taxes. Alors, selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2023, le revenu disponible était de 35 117 $ en hausse de 1,7% sur l'année précédente. Par contre, on a vécu le phénomène de l'inflation, je l'ai mentionné, et en 2022, la hausse avait été de 5,3%. Et la Nadière est quand même sous la moyenne québécoise, alors que le revenu disponible en 2023 au Québec était de 36 531 $ pour une hausse de 2%.
Et tant qu'à être dans les bonnes nouvelles, lueur d'espoir pour les producteurs maraîchers.
Depuis le 1er juin, les détaillants en alimentation sont invités à se soumettre à un code de conduite qui les empêche de profiter de la vulnérabilité des producteurs maraîchers et de leur imposer des prix. Patrice Léger-Bourgoin, c'est le directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Il nous parle de cette pratique inéquitable.
À partir du moment où il procède à la récolte d'un produit hautement périssable, il a seulement quelques jours là, pour se départir de son produit. Alors, l'acheteur, le plus souvent la grande chaîne, a le dernier mot pour suggérer un prix et le producteur se trouve preneur de ce prix-là, puisque à défaut de pouvoir le vendre, il se retrouve avec des pertes de produits qui deviennent carrément du gaspillage alimentaire.
Il faut dire que la région, c'est la deuxième en importance en fait production de légumes. Là.
Donc, il y a bien des gens dans la région qui pourraient effectivement en profiter.
Absolument. Et en terminant, il y a des chanceux qui vont pouvoir se rendre gratuitement dans les parcs régionaux.
Et Québec qui délie quand même un peu les cordons de la bourse avec 2,5 millions de $ pour permettre aux Québécoises et Québécois des accès aux parcs à moindre coût. Alors, il y a environ 58 000 accès journaliers gratuits qui seront notamment offerts dans les parcs régionaux du réseau parc à compter du 7 juin. Il est déjà possible de réserver sur toutlemondedehors.ca. On écoute David Lapointe, le directeur général des parcs régionaux de la Matawinie.
Fait que tout ça passe en ligne maintenant. Donc, les gens doivent s'inscrire via leur adresse courriel. Et puis, donc, elles peuvent aller chercher leur inscription comme ça. Et puis, ça permet l'accès au parc. Donc, c'est le parc régional de la Forêt-Waro, le parc régional de la Chute à Bulle, le parc régional des Sept Chutes et le parc régional du lac Taureau.
Et c'est sous la formule premier arrivé, premier servi. Il faut faire vite.
Il faut vraiment se dépêcher parce que ça risque effectivement de partir assez rapidement. Ça complète d'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Il est 16h36 minutes et il a fait beau aujourd'hui. Hein? On l'attendait depuis longtemps, celle-là. Je sais pas pour vous, moi, je me suis levé très tôt ce matin pour planter le reste de mes légumes qui étaient dans le salon. Alors là, c'est fait. Écoutez, la prochaine entrevue, c'est mon coup de cœur du jour. Un professeur du Centre de formation professionnelle des Moulins de Terrebonne qui va recevoir ce week-end à Québec une distinction importante. Mais c'est son père qui est venu voir hier dans le hall d'entrée de CFNJ. André Carrier est son nom. Il était très fier de son fils. Il est venu nous informer de la nouvelle et j'ai pu rejoindre le fils pour nous en parler. J'appelle ça ma petite entrevue People du jour avec Marc-André Carrier. Écoutez bien ça.
Lanaudière PM, éducation.
Marc-André Carrier, vous êtes professeur au Centre de formation professionnelle des Moulins. Dites-moi un peu ce qui vous arrive, là, c'est intéressant.
Cette année, il y a des élèves qui sont venus voir pour... il y a un concours annuel, ça s'appelle Chapeau les filles. Chapeau les filles, c'est un programme qui fait en sorte que les demoiselles sont plus à l'aise de s'impliquer dans des métiers qui sont habituellement réservé aux hommes. Donc, j'ai mentoré 4 élèves. Deux de mes élèves ont gagné et les deux qui ont malheureusement pas gagné ont fini comme première finissante et deuxième finissante. Et moi, j'ai gagné, par rapport à ça, le titre de mentor de l'année au Québec.
Mentor de l'année au Québec.
Professionnel.
Donc, vous enseignez l'électricité là-bas. Métier non traditionnel pour 4 de vos étudiantes. Et les deux filles qui ont gagné, c'est une sorte de concours, une compétition qu'il y avait?
Ben c'est dans le fond, il y a un texte écrit à faire par rapport à qu'est-ce que ça représente l'électricité pour toi, quels ont été les défis ou potentiellement les obstacles que tu as eu besoin de passer. Et il y a une personne qui t'a inspiré. À fond, moi, je me trouve avoir gagné parce que j'ai été une source d'inspiration pour plusieurs élèves et tout ça. Et ça a été décidé par un comité. Les élèves qui ont gagné gagnent quand même des bons montants monétaires. On parle d'un élève qui a gagné 2 500 $ et l'autre a gagné 2 000 $. De mon côté, il y a un petit prix, mais c'est plus pour eux autres que je l'ai fait. Là. C'était pas vraiment...
Et ces
même pas qu'il y avait un prix.
Et ces étudiantes-là, ces élèves-là, c'est des filles qui vont travailler dans la construction un jour?
Tout à fait. Il y en a même... Ben, en fait, les deux ont même déjà commencé à travailler. Une espèce d'attestation alternance travail-études, si on veut. Fait qu'ils ont déjà goûté au chantier, au marché du travail. Et ils se débrouillent très bien. Pour vrai, j'aurais aucune difficulté à les recommander là, demain matin. Je suis vraiment content pour eux autres. Ça donne un bon coup de pouce dans la vie là, pour démarrer. Ça permet d'acheter des outils ou quoi que ce soit pour commencer leur carrière.
On parle d'étudiants de quel âge environ?
Il y en a une des deux qui a 19 ans et l'autre, elle vient d'avoir 30 ans. Fait que, tu sais, il y en a vraiment pour toute la plage. Les deux autres qui n'ont pas gagné, il y en avait une qui venait tout juste d'avoir 18 ans et l'autre, elle a la quarantaine. Fait que, il y a quand même un bon échantillon, là. Il y a une bonne plage.
Et ce genre de compétition-là, pour les élèves, c'était à travers le Québec ou c'était régional?
Oui, c'est à travers le Québec. C'est-à-dire que partout au Québec, les élèves pouvaient s'inscrire et tout ça. C'est vraiment là, toute l'éducation, autant au cégep qu'en éducation professionnelle et tout ça. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment plein de compartiments ou plein de sections. Eux, ceux dans lesquels ils sont inscrits, c'est vraiment le côté science. Le côté électricité, c'est classé dans la section science, en fait. Donc, ils sont allés chercher des prix dans cette catégorie-là. Je sais qu'à notre école, il y a aussi un élève qui a gagné en ébénisterie. Et c'est quand même assez rare qu'un centre de formation ait plus qu'un gagnant, ou ait un gagnant tout court. Là, qu'on en ait quatre cette année, ça a été comme vraiment formidable.
Et les distinctions sont remises à Québec dans quel cadre?
Oui, à Québec, il y a un gala, qui s'appelle le gala Chapeau les filles. C'est en fin de semaine, en fait, là, c'est dimanche et lundi. Il y a vraiment une remise de prix avec un gala, et c'est vraiment une tenue chic, là, une tenue soirée. Et ça va se passer justement en fin de semaine. Et moi, c'est la première fois que j'y vois. En fait, je pense que c'est la première fois qu'un professeur, un enseignant qui est à sa première année gagne ce prix-là. Fait que c'est quand même vraiment un bel honneur pour moi.
Vous êtes mentor de l'année, donc ça doit rejaillir sur le centre de formation, ça. On doit être content.
Tout à fait. La direction est vraiment très contente. Ils ont même décidé de venir faire un petit voyage avec nous autres. On va monter quelques professeurs avec la direction là-bas. On a notre table qui nous attend et tout. C'est vraiment une belle petite fierté pour notre gang.
Eh bien, à notre tour de vous donner une bonne tape dans le dos, Marc-André Carrier, mentor de l'année, c'est pas rien. Et ça sera souligné ce week-end du côté de Québec. Bravo. En tout cas, votre père est bien fier de vous.
Oui, je vois ça. Il m'avait pas dit qui, en tout cas. C'est une surprise.
Il s'est présenté à la station tantôt en me racontant cette histoire-là. Ben, je dis, ça va à peine, hein, oui.
Non, mais c'est super gentil. Je m'excuse encore du dérangement.
Non, il n'y a pas de trouble, Moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, il y a trois choses. Un, ça me réconcilie énormément. On chiale tout le temps contre les profs, souvent. Et puis, votre humble serviteur également. Et là, on voit un professeur à sa première année, qui gagne mentor de l'année au Québec. Il s'occupe de quatre jeunes femmes qui ont choisi des métiers non traditionnels. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de voir dans les yeux du père, qui est venu me voir aujourd'hui, toute la fierté à un homme de 80 ans et plus. Là. J'avais des frissons, comprenez-vous? Et ça, à la veille de la fête des pères qui arrive, ben ça m'a donné ça m'a donné quelque chose. ça a fait du bien.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonnie-Soir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Ma Tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignons et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Entreprise et organismes à l'écoute, ne manquez pas votre chance de briller au Salon 50 Plus de la FADOC, région Lanaudière, présenté pour une deuxième année consécutive par les Habitations Bordelot. Les 26 et 27 septembre, venez rencontrer des milliers de visiteurs aux Galeries Joliette. C'est l'occasion idéale de faire connaître vos produits et services à une clientèle active et engagée. Réservez votre kiosque dès maintenant. Contactez Annie à la FADOC ou visitez le fadoc.ca pour tous les détails. Soyez exposant au Salon 50+, et faites rayonner votre organisation.
Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1, 88.9, CFNJ. À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bon mercredi, Pierre Paquette. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous-même, mon cher.
Écoutez, avec une journée comme celle-là, je sais pas dans votre coin où vous êtes, mais on a frôlé des records de météo, là.
Oui, c'est un petit peu trop, même, je dirais.
Vous n'avez pas la clim, vous, non?
Oui, mais même à ça, il faut bien promener le chien.
Oui, promener le maître aussi, bon. Écoutez, il y a deux lois là que défend le gouvernement présentement, la loi 69, la réforme énergétique, qui risque d'être adoptée sous bâillon. Ça, c'est jamais trop démocratique. Et il y a également le projet de loi sur les forêts, et ça soulève l'indignation. Écoutez, parlez-moi un peu là, d'abord là, de la réforme énergétique.
Bien, en fait, la réforme énergétique, dans les deux cas, je pense que c'est important de le souligner pour nos auditeurs, là, le gouvernement n'a qu'un seul allié dans chaque dossier. Dans le cas de la réforme forestière, ce n'est que la grande industrie forestière qui appuie le projet de loi. Les municipalités, les syndicats, évidemment, les environnementalistes, les autochtones, les scientifiques sont opposés au projet de loi. Dans le cas de l'énergie, ben il n'y a que Hydro-Québec qui est d'accord avec le gouvernement et M. Sébia qui a été nommé par François Legault. Alors déjà, ça, je trouve que c'est un signe que ça va pas très bien.
Trouvez pas qu'un gouvernement, ça aide pas? Des gens qui ont des troubles avec sa clique là, par-dessus la tête, l'opinion publique n'est pas pour eux. Là, en plus, ça grogne encore de tous bords, tous côtés.
Ben exactement. Je trouve que le gouvernement s'isole dans ces deux dossiers-là. Bon, dans le cas de l'énergie, il s'agit de réduire finalement les pouvoirs de la régie de l'énergie pour que le gouvernement puisse dicter un certain nombre de voies, comme par exemple, actuellement, le gouvernement vise à ce qu'il n'y ait pas une augmentation de plus de 3% pour les tarifs d'électricité pour les particuliers et que s'il y a une facture supplémentaire, ce soit reporté sur les PME. Les grandes entreprises et le secteur gouvernemental, c'est très bien, sauf que ça fait en sorte que c'est le gouvernement qui décide maintenant des tarifs, alors que la régie de l'énergie avait été mise en place justement pour dépolitiser tout cet aspect-là. Alors là, le gouvernement repolitise la question et évidemment, ce gouvernement-là nous dit qu'il va baisser qui va maintenir à 3% l'augmentation des tarifs pour les particuliers. Mais avec le projet de loi, ça n'empêcherait pas un prochain gouvernement de dire plutôt non, ça va être les résidentiels, les tarifs résidentiels qui vont assumer l'essentiel de l'augmentation. Alors donc, c'est un projet de loi qui est très contesté, très contestable, parce qu'il va à l'encontre finalement de plusieurs décennies de tentatives de dépolitisation de la tarification d'Hydro-Québec. Alors ça, je pense que c'est... Et dans ce cas-ci, le gouvernement a dit qu'il était prêt à utiliser la loi, le bâillon, c'est-à-dire pour faire adopter sa loi. Alors, c'est mal parti.
Puis de l'autre côté, l'opposition qui demande carrément le retrait du projet de loi. Là.
Ben exactement, parce que, dans le cas des libéraux, très clairement, ils disent que c'est un projet de loi qui nuit aux petites et moyennes entreprises. Et dans le cas du PQ, on a peur que ce soit une voie vers la privatisation qui est déjà débutée. D'ailleurs, la privatisation d'Hydro-Québec est débutée par, je dirais, un biais un peu particulier. C'est l'ensemble des parcs éoliens sont privés et la vente d'électricité se fait à Hydro-Québec, mais il y a une certaine forme de privatisation qu'on avait voulu éviter dans les années 60 avec la nationalisation d'électricité. Alors, c'est un dossier qui risque de faire mal au gouvernement au fil des mois.
Si on revient au régime forestier, écoutez, on veut concéder le tiers de la forêt publique québécoise à l'industrie du bois. C'est un territoire, là, pour situer, pour les gens, là, ça équivaut à peu près à 4 fois celui de la Belgique. Pas rien, là. Ben,
non, exactement. Puis ça permettrait à l'industrie d'économiser 80 millions de dollars sans compensation, en tout cas sans compensation prévue dans la loi. Et donc, ça aussi, comme je mentionnais au départ, l'opposition vient de tout le monde, sauf des grandes forestières qui en bénéficieraient, comme on vient de le voir, un tiers du territoire. Mais en plus de ça, dans le cadre de ce projet de loi-là, on introduirait une notion qui s'appelle la triade, c'est-à-dire trois zones. Une zone qui serait une zone d'air protégée, une zone qui serait une aire d'exploitation intense. Alors, c'est celle qui serait donnée finalement aux entreprises forestières et elles auraient carte blanche pour faire ce qu'elles veulent. Une zone mixte où on trouverait la pêche, la chasse, différentes activités, mais aussi de l'industrie forestière. Et 55% du bois viendrait de cette zone-là. Alors, ça serait quand même assez... intensif. Alors,
pour faire ça, Pierre, il faut demander aux gens, il faut consulter les gens. Je veux bien croire que... oui, je m'emporte. Je veux bien croire qu'on va dans les endroits où les pêcheurs vont, mais encore faut-il demander aux EC, faut-il demander aux exploitants, à ceux qui partagent cette forêt-là, les randonneurs, les parcs régionaux, les MRC.
Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, la CEPAC, qui est pourtant un organisme gouvernemental qui gère nos parcs, dit que le projet de loi menace les orignaux dans la forêt. Alors, c'est quand même assez paradoxal qu'un organisme gouvernemental critique un projet de loi comme ça. Et il y a les Autochtones aussi. Alors là,
ce qu'on peut dire, c'est que la loi manque de panache, c'est le cas de dire.
Oui, exactement. Mais par contre, ça risque de mettre de côté le calumet de paix, parce que les Autochtones ont promis de faire une guerre à outrance contre ce projet de loi-là, parce que ça va à l'encontre, finalement, des conclusions de la commission Coulombe, c'est-à-dire qui, il y a déjà plusieurs décennies, avait un petit peu mis les cartes sur la table. C'est ça qu'on voulait moderniser, mais on voulait pas le changer complètement. Là, avec le projet de loi de la CAQ, Mme Fréchette est en train de... Mme Blanchette Vézina est en train de tout changer le paysage. Et encore une fois, les Autochtones sont contre, les municipalités sont contre, qui sont supposées être les alliés du gouvernement là-dedans, ben, ils sont contre, ils sont allés en commission. Il n'y avait pas de commission parlementaire, c'était des invitations spéciales.
C'est ça,
et d'ailleurs, les scientifiques n'ont pas été invités parce que les scientifiques s'opposent à ce projet de loi-là. Et
quand on est contre, on n'est pas invité, si je comprends bien.
C'est ça. Puis ceux qui sont invités, quand ils sont contre, on n'en tient pas compte. Alors, je pense pas que le gouvernement va finir la session sur un bon pied pour se préparer pour la dernière année avant les élections. Encore une fois, il est complètement isolé. Dans les deux projets de loi, il y a un seul allié, Hydro-Québec dans un cas, puis la grande entreprise forestière dans l'autre. Et donc, il s'est isolé complètement et il menace d'utiliser le bâillon. Et ça encore, je pense que ça va laisser des traces et le gouvernement ne va pas être gagnant.
Merci, Pierre Paquette. C'était fort intéressant.
De rien. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Absolument.
Bye.
Mais moi, je veux vous parler, là, je vais prendre une petite minute pour vous parler d'une belle histoire. A.G. Greer, connaissez-vous ce jeune-là? C'est un jeune de Notre-Dame-des-Prairies, un prairiquois, qui, lui, joue au hockey dans la Ligue nationale et a des grosses chances ce soir qu'il soit de la formation partante des Panthers de la Floride dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley face aux Oilers d'Edmonton. Écoutez, un petit gars de chez nous, qui participe à la finale de la Coupe Stanley, ça nous fait très plaisir. Et ce jeune-là a déjà pensé tout lâcher. L'année de la pandémie, là, ça allait pas bien son truc. Il était à 24 heures de lâcher le hockey à un moment donné. Les choses allaient pas bien hors de la glace, sur la glace non plus. Il faisait des séjours dans la Ligue américaine, dis-je bien. Les gars étaient laissés de côté souvent. On le mettait au bout du banc, comme dirait l'autre. Il avait disputé 38 matchs en 4 saisons dans la Ligue nationale seulement. Et finalement, il a été repêché, il a été échangé aux Panthers de la Floride. Et là, il a eu la confiance de son entraîneur. Et la belle histoire, c'est qu'il fait maintenant partie d'une équipe qui aspire à devenir championne pour la deuxième année consécutive, les Panthers de la Floride. On va lui souhaiter la meilleure des chances à ce jeune homme qui vient de chez nous. Pourquoi pas? On remercie beaucoup aujourd'hui les gens qui ont participé à notre émission. Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Oui, voilà, j'ai retrouvé mes feuilles. Nathalie Marcotte, coordonnatrice table régionale de l'Association des personnes handicapées de la Naudière. Isabelle Perrault, la mairesse de Saint-Alphonse et préfète de l'MRC Matawinie. Marc-André Carrier, ce professeur qui est le mentor de l'année au Québec. Félicitations, Marc-André Carrier. Merci beaucoup à Pierre Paquette, à François Morin, Nicolas Bellemare, Claude Fournel, ici Michel Arnois qui vous donne rendez-vous demain, 16h.